Chapitre 2. Ils se turent quelques minutes, absorbés par le tourbillon intérieur qui ébranlait leur être jusqu'aux racines, comme pour les arracher. Des jardins, les effluves descendaient autour d'eux et nageaient comme des huiles sur l'eau qui, çà et là, portait dans ses plis le lustre du vieux bronze. Il y avait dans l'air comme un reflet épars du faste d'autrefois, et leurs yeux le percevaient de la même façon que, en contemplant les palais noircis par les siècles, ils avaient, dans l'harmonie des marbres durables, retrouvé la note éteinte de l'or. Il semblait qu'en ce soir magique revinssent tous les souffles et les mirages de l'Orient lointain, tels que les apportait jadis dans ses voiles creuses et dans ses flancs recourbés, la galère pleine de belles proies. Et toutes les choses d'alentour exaltaient la puissance de la vie chez cet homme qui voulait attirer à soi l'univers afin de ne plus mourir, et chez cette femme qui voulait jeter au bûcher son âme trop lourde afin de mourir pure. Et s'ils palpitaient l'un et l'autre sous l'oppression d'une anxiété croissante, l'oreille attentive à la fuite du temps, comme si l'eau sur laquelle ils naviguaient eût coulé dans une clepsydre effroyable. Ils sursautèrent l'un et l'autre au fracas imprévu d'une salve qui saluait le pavillon amené sur la poupe d'un vaisseau de guerre à l'ancre devant les jardins. Au sommet de la masse noire, ils virent le drapeau tricolore descendre le long du mât et se replier comme un rêve héroïque évanoui. Pendant quelques secondes, tandis que la gondole glissait dans l'ombre plus épaisse, rasant le flanc du colosse armé, le silence parut plus profond. « Connaissez-vous, demanda tout à coup Stelio, cette Donatella Arvale qui doit chanter dans l'Ariane ?» Sa voix, en se répercutant contre le cuirassé et dans l'ombre le plus épaisse, prit une sonorité singulière. Oui, c'est la fille du grand sculpteur Lorenzo Arvale, répondit après un instant d'hésitation la Foscarina. Oh, je n'ai pas d'amis plus chers, et même je lui donne en ce moment l'hospitalité. Vous la rencontrerez chez moi ce soir après la fête. Hier soir, Donna Adriana m'a parlé d'elle avec beaucoup de chaleur, comme d'un prodige. Elle m'a dit que la pensée de désensevelir Ariane lui était venue à entendre Donatella Arvale chanter vividement l'air comme tu puoi, mais derbi piangere. Nous aurons donc chez vous une musique divine, Perdita. Oh, comme j'en ai soif. Là-bas, dans ma solitude, pendant des mois et des mois, il ne m'est donné d'entendre que la seule musique de la mer, trop terrible, ou la mienne, trop tumultueuse encore. Les cloches de Saint-Marc donnèrent le signal de la salutation angélique, et leurs puissants éclats se dilatèrent en larges ondes sur le miroir du bassin, vibrèrent dans les vergues des navires, se propagèrent sur la lagune infinie. De Saint-Georges majeur, de Saint-Georges des Grecs, de Saint-Georges des Esclavons, de Saint-Jean Bragora, de Saint-Nimoïse, de la Salute et du Rédempteur et de proche en proche par tout le domaine de l'évangéliste, jusqu'aux tours lointaines de la Madonna dell'Orto, de Saint-Job, de Saint-André, les voix de bronze se répandirent et se confondirent en un seul chef-d'œuvre immense, et tendirent sur le muet appât des pierres et des eaux une seule coupole immense de ce métal invisible dont les vibrations atteignirent le scintillement des premières étoiles. Ces voix sacrées donnaient une idéale grandeur infinie à la ville du silence. Partant de la cime des temples, des hauts clochetons ouverts au vent marin, elle répétait aux hommes, mieux et anxieux, la parole de cette multitude immortelle que recelaient maintenant les ténèbres des nefs profondes ou qu'agitaient mystérieusement les clartés des lampes votives. Aux esprits fatigués par le jour, elles apportaient le message des surhumaines créatures qui annonçaient un prodige ou promettaient un monde, figurés sur les parois des secrètes chapelles, dans les icônes des autels intérieurs. Et toutes les apparitions de la beauté consolatrice qu'invoque la prière unanime s'élevaient avec cette immense rafale de sons, chantaient en ce cœur aérien, illuminaient la face de la nuit merveilleuse. « Pouvez-vous prier encore ?» demanda Stelio à mi-voix en regardant la femme qui, les paupières baissées et immobiles, les mains jointes sur les genoux, se recueillait toute dans une oraison intérieure. Elle ne répondit pas, et même ses lèvres se serrèrent plus fort. Et tous deux restèrent à écouter, sentant revenir encore leur angoisse, comme un fleuve qui, après la cataracte, reprend la rapidité de son cours. Et ils avaient tous deux la conscience confuse de l'étrange intervalle où avait soudainement surgi entre eux une figure nouvelle, où avait été proféré un nom nouveau. Le fantôme de la brusque sensation qu'ils avaient reçue en pénétrant dans l'ombre projetée par le flanc du vaisseau demeurait en eux comme une écueil isolé, comme un point indistinct, mais persistant, autour duquel s'ouvrait une sorte de vide inexplorable. L'angoisse et la passion les reprenaient maintenant à l'improviste, et les jetaient l'un vers l'autre, les rapprochaient avec tant de force qu'ils n'osaient pas se regarder dans les pupilles par crainte d'y découvrir une convoitise trop brutale. « Vous reverrai-je ce soir après la fête ?» demanda la Foscarina avec un tremblement dans sa voix éteinte. « Êtes-vous libre ?» Elle s'empressait maintenant de le retenir, de le faire prisonnier comme si elle eût craint qu'il ne lui n'échappât, comme si elle eût espéré découvrir cette nuit-là quelques filtres capables de l'enchaîner à elle définitivement. Et si elle comprenait que désormais le don de son corps était devenu nécessaire, pourtant, à travers la flamme qui la brûlait toute, elle reconnaissait aussi, avec une atroce lucidité, la misère de ce don refusé si longtemps. Et une pudeur douloureuse, mêlée d'effroi et d'orgueil, contractait ses membres défleuris. « Mais je suis libre, je suis à vous, » répondit le jeune homme tout bas, sans lever les yeux sur elle. « Vous savez que pour moi, rien ne vaut ce que vous pouvez me donner. » Il tremblait lui aussi au fond de son cœur, devant les deux beaux buts vers lesquels, ce soir-là, toute son énergie se tendait comme un arc. La ville et la femme, toutes les deux tentatrices et mystérieuses, hélas d'avoir trop vécu et lourdes de trop nombreuses amours, et trop magnifiées par son rêve et destinées à tromper son attente. Son âme resta opprimée quelques instants sous un flot impétueux de regrets et de désirs. L'orgueil et l'ivresse de son dur et persévérant labeur, son ambition sans frein et sans limite, resserrée dans un champ trop étroit, son âpre intolérance de la vie médiocre, sa prétention au privilège des princes, le goût dissimulé de l'action qui le poussait vers la foule comme vers la proie préférable, le songe d'un art plus grand et plus impérieux qui fut tout à la fois entre ses mains un flambeau de lumière et un instrument de domination, tous ses rêves superbes et empourprés, tous ses besoins insatiables de prééminence, de gloire et de plaisir, s'insurgèrent avec un tumulte confus et l'éblouirent et le suffoquèrent. Et le poids de la tristesse l'inclina vers le suprême amour de cette femme solitaire et nomade qui, dans les plis de ses vêtements, paraissait lui apporter, recueillie et muette, la frénésie de cette multitude lointaine où son art avait excité le frisson divin et foudroyant par un cri de passion ou par un sanglot de douleur ou par un silence de mort. Une trouble convoitise le plia vers cette femme savante et désespérée, où il croyait découvrir les vestiges de toutes les voluptés, de toutes les fièvres, vers ce corps qui n'était plus jeune, mais qui avait amolli toutes les caresses, mais qui ne connaissait pas encore. « C'est une promesse ?» reprit-il, le front penché, se resserrant tout entier en lui-même pour contenir son agitation. « Ah, enfin !» Elle ne répondit pas, mais elle fixa sur lui un regard où brûlait une ardeur presque folle. Stélio ne vit pas ce regard, et ils demeurèrent silencieux, tandis que le bourdonnement du bronze passait au-dessus de leur tête si fort qu'ils le sentaient dans la racine de leurs cheveux comme un frémissement de leur propre chair. « Adieu !» dit-elle au moment où ils abordaient. « À la sortie, nous nous retrouverons dans la cour, près du second puits, le plus voisin du môle. » « Adieu, dit-il, faites que je vous aperçoive au milieu de la foule quand je serai sur le point de prononcer ma dernière première parole. » Une clameur confuse arriva de Saint-Marc avec le son des cloches, se propagea sur la piazzetta, se perdit vers la fortune. « Que toute la lumière soit sur votre front, Stélio, dit-elle en guise de bon présage. » Et passionnément, elle lui tendit ses mains arides. Lorsqu'il entra dans la cour par la porte du midi, Stélio, en voyant l'escalier des géants assailli par la noire et blanche multitude qui fourmillait sous la rougeâtre lueur des torches fixées dans des candélabres de fer, eut un mouvement soudain de répugnance et s'arrêta sous le porche. Il avait senti le contraste entre cette cohue mesquine et les aspects de ces architectures qui, magnifiées par l'insolite illumination nocturne, exprimaient avec des harmonies variées la force et la beauté de la vie d'autrefois. « Quelle misère ! » s'écria-t-il en se retournant vers les amis qui l'accompagnaient. Dans la salle du Grand Conseil, sur l'estrade du Doge, trouver des métaphores pour émouvoir 1000 plastrons empesés. Retournons en arrière, allons respirer l'odeur de l'autre foule, de la foule véritable. La reine n'est pas encore sortie du palais royal, nous avons le temps. Jusqu'au moment où je te verrai sur l'estrade, dit en riant Francesco Delizzo, « je ne serai pas sûr que tu parleras. » Stélio, je crois préférerais le balcon à l'estrade, dit Pierre Martello, qui voulait flatter chez le maître ce goût de sédition et cet esprit factieux qu'il affectait lui-même pour l'imiter. Harangué entre les deux colonnes rouges, le peuple mutiné, qui menacerait de mettre le feu aux procuratis et à la librairie Aveschia. Oui, certainement, dit Stélio, si la harangue avait le pouvoir d'empêcher ou de précipiter un acte irréparable. Je conçois que l'on use de la parole écrite pour créer une pure forme de beauté que le livre encore non coupé contient et renferme comme un tabernacle auquel on n'accède que par élection avec la même volonté préméditée qui est nécessaire pour briser un sceau. Mais il me semble que le discours parlé, quand il s'adresse directement à une multitude, doit avoir pour fin l'action seule. C'est uniquement à cette condition qu'un esprit fier peut, sans s'amoindrir, communiquer avec la foule par les vertus sensuelles de la voix et du geste. En tout autre cas, son jeu serait de nature histrionique. Bon, si, oh, ai-je un repentir amer d'avoir accepté cette fonction d'ovateur décoratif et de pur agrément. Considérez, je vous prie, ce qu'il y a d'humiliant pour moi dans l'honneur qu'on me fait. et considérez aussi l'inutilité de mon prochain effort. Tous ces gens-là, foule étrangère enlevée un soir à ses occupations médiocres ou à ses récréations favorites, viennent m'écouter avec la même curiosité vaine et stupide qui les porterait à écouter un virtuose quelconque. Pour les femmes qui m'entendront, l'art que je mets à composer le nœud de ma cravate sera beaucoup plus appréciable que l'art avec lequel je coordonne mes périodes. Et au fond, il est probable que l'unique effet de mon discours sera un battement de main assourdi par les gants ou un bref murmure discret auquel je répondrai par une gracieuse inclination de tête. Ne vous semble-t-il pas que je vais atteindre le terme suprême de mon ambition ? Oh, tu as tort, dit Francesco d'Elizzo. Tu devrais te féliciter d'avoir cette heureuse occasion d'imprimer durant quelques heures le rythme de l'art à la vie d'une cité oublieuse et de nous faire entrevoir les splendeurs dont notre existence pourrait s'embellir par l'accord renouvelé de l'art et de la vie. Si l'homme qui éleva le théâtre de fête était là, il te louerait pour cette harmonie qu'il a prédite. Mais ce qu'il y a de purement admirable, c'est qu'en ton absence et à ton insu, la fête semble avoir été préparée sous l'inspiration de ton génie. C'est la meilleure preuve qu'il est possible de restaurer et de reprendre le goût, même au milieu de la barbarie présente. Ton influence est plus profonde aujourd'hui que tu ne le crois. La dame qui a voulu te glorifier, celle que tu nommes la Dogaresse, à chaque idée nouvelle qui lui venait à l'esprit, se posait la question « Cela plaira-t-il à Efrena ?» Si tu savais combien de jeunes gens se posent aujourd'hui la même question lorsqu'ils considèrent les aspects de leur vie intérieure. Et pour qui parleras-tu, sinon pour eux ? Dit Daniel Giorgio, le fervent et stérile ascète de la beauté, avec cette voix toute spirituelle où semblait se refléter l'ardeur candide et inextinguible d'une âme que le maître préférait comme la plus fidèle. Si, quand tu seras sur l'estrade, tu jettes autour de toi un regard, tu les reconnaîtras aisément à l'expression de leurs yeux, et ils sont là en grand nombre, et plusieurs sont même venus de très loin. Et ils attendent ta parole avec une anxiété que tu ne comprends pas, peut-être. Qui sont-ils ? Ouf, ce sont tous ceux qui ont bu ta poésie, qui ont respiré l'éther enflammé de ton rêve, qui ont senti la griffe de ta chimère, tous ceux à qui tu as annoncé la transfiguration du monde par le prestige d'un art nouveau. Grand, très grand est le nombre de ceux que tu as séduits par ton espérance et par ta joie. Or, ils ont ouï dire que tu parlerais à Venise, dans le palais des Doges, dans l'un des endroits les plus glorieux et les plus splendides qu'il y ait sur la terre. Ils pourront donc te voir et t'écouter pour la première fois, au milieu de cette inestimable magnificence qui leur paraît le cadre approprié à ta nature. Le vieux palais des Doges, resté dans les ténèbres pendant une si longue succession de nuits, s'illumine tout d'un coup et revit ce soir. Pour eux, toi seul as eu le pouvoir d'en rallumer les torches. Comprends-tu maintenant leur anxieuse attente ? Et ne te semble-t-il pas que c'est pour eux seuls que tu dois parler ? Cette condition que tu imposes à l'homme harangante une multitude, elle peut s'accomplir. Il dépend de toi de soulever dans leurs âmes une émotion forte qui les tourne et les oriente pour toujours vers l'idéal. Combien d'entre eux, Stelio, garderont de cette nuit vénitienne un souvenir inoubliable ? Stelio mit la main sur les épaules prématurément courbées du docteur mystique et en souriant, répéta les paroles de Pétrarque. Non ego loquar omnibus et tibi, et mihi, et is. Non, moi je ne parlerai pas pour tous, mais seulement pour toi, mais pour moi et pour ceux. Il voyait en lui-même resplendir les yeux de ses disciples inconnus, et il entendait maintenant résonner en lui-même avec une clarté parfaite, comme une modalité tonique, l'accent de son exorde. Néanmoins, répliqua-t-il gaiement en s'adressant à Pietro Martello, il serait plus amusant de soulever dans cette mer une tempête. Ils étaient sous le portique, près du pilastre angulaire, en contact avec la foule unanime et bruyante qui se pressait sur la piazzetta, s'allongeait vers la zecca, s'engouffrait sous les procurati, barrait la tour de l'horloge, occupait tous les espaces libres comme eût fait l'onde sans forme, communiquait squalor vivante au marbre des colonnes et des murs heurtés avec violence par son continuel remous. De temps à autre, une clameur plus forte s'élevait, lointaine, à l'extrémité de la grande place, et se propageait. Et tantôt, sa force allait croissant jusqu'à éclater près d'eux comme un tonnerre, tantôt elle allait diminuant jusqu'à expirer près d'eux comme un murmure. Les archivoltes, les galeries, les flèches, les coupoles de la basilique dorée, l'attique de la loggetta, les architraves de la bibliothèque resplendissaient d'innombrables petites flammes. Et la pyramide du campanile, très haute, scintillante parmi les constellations silencieuses dans le sein de la nuit, évoquait sur la multitude ivre de clameurs l'immensité du silence bleu, le navigateur à l'extrémité de la lagune où cette lumière lui apparaissait comme un phare nouveau, le rythme d'une rame solitaire agitant sur l'eau dormante le reflet des astres, la paix sacrée, recueillie dans les murs de quelque couvent des îles. Me voudrais cette nuit me trouver pour la première fois avec la femme que je désire, par-delà les jardins, vers le Lido, sur une couche flottante, dit le poète érotique Paris Seglano, un jeune homme blond et imberbe dont la belle bouche purpurine et vorace faisait contraste avec la délicatesse presque angélique de ses traits. À quelque amant néronien caché sous le Fès, Venise offrira dans 1 heure le spectacle d'une ville délirante qui s'incendie. Stelio sourit en remarquant à quel point ses familiers s'étaient imprégnés de son essence et combien profondément le sceau de son style s'était imprimé sur leurs esprits. Subitement s'offrit à son désir l'image de la Foscarina, empoisonnée par l'art, chargée d'expériences voluptueuses, ayant le goût de la maturité et de la corruption dans sa bouche éloquente, ayant l'aridité de la vaine fièvre dans ses mains qui avaient exprimé le suc des fruits fallacieux, gardant les vestiges de 100 masques sur ce visage qui avait simulé la fureur des passions mortelles. C'était ainsi que cela représentait son désir, et il palpitait à la pensée que tout à l'heure il la verrait émerger de la foule comme de l'élément dont elle était l'esclave, et qu'il puiserait dans le regard de cette femme l'ivresse nécessaire. Allons, dit-il brusquement à ses amis, il est l'heure, un coup de canon annonçait que la reine était sortie du palais royal. Un long frémissement courut parmi la vivante masse humaine, pareil à celui qui, en mer, précède la rafale. Sur le quai de Saint-Georges majeur, une fusée, partie avec un long sifflement, s'éleva droit dans les airs comme une tige de feu, jeta au sommet une tonnante rose de splendeur, puis elle se courba, se raréfia, se dispersa en étincelles tremblantes, s'éteignit dans l'eau avec une crépitation sourde. Et la clameur joyeuse qui s'adressait à la belle femme couronnée le nom de la fleur et de la perle, répété dans un cri d'amour aux échos du marbre, évoqua la pompe de l'ancienne promission, le cortège triomphal des arts escortant jusqu'au palais la nouvelle Dogarès, le flot d'allégresse sur lequel Morosina Grimani montait jusqu'à son trône, resplendissante d'or, tandis que tous les arts s'inclinaient devant elle, chargés de dons comme des cordes d'abondance. « Assurément, dit Francesco Delizzo, si la reine aime les tivres, elle doit porter ce soir toutes ses perles au cou. Tu auras devant toi un buisson ardent, tous les joyaux héréditaires du patricien vénitien. » Regarde au pied de l'escalier, Stelio, dit Daniele Giolo. Il y a là un groupe de fanatiques qui t'attendent au passage. Stelio s'arrêta près du puits indiqué par la Foscarina. Il se pencha sur la margelle de bronze dont ses genoux effleurèrent les petites cariatides en relief. Et dans le sombre miroir intérieur, il aperçut le vague reflet des lointaines étoiles. Pendant quelques instants, son âme s'isola, se fit sourde aux rumeurs environnantes, se recueillit dans ce disque d'ombre d'où montait une légère fraîcheur qui révélait la muette présence de l'eau. Et il sentit la fatigue de son esprit trop tendu et le désir d'être ailleurs et le vague besoin d'outrepasser aussi cette ivresse que lui promettaient les heures nocturnes. Et dans la dernière profondeur de son être, une âme secrète qui, à la ressemblance de ce miroir d'eau, demeurait immobile, étrangère et intangible. Que vois-tu ? Lui demanda Pietro Mortello en se penchant comme lui sur la margelle usée par les cordes séculaires. Il répondit : Le visage de la vérité. Dans les pièces contiguës à la salle du Grand Conseil, jadis habitée par le doge et maintenant par les statues païennes prises avec les antiques butins de guerre, Stelio attendait l'avertissement du maître des cérémonies pour monter sur l'estrade. Calme, il souriait aux amis qui lui parlaient, mais leurs paroles arrivaient à son oreille comme les grondements interrompus que le vent apporte de loin entre deux pauses. De temps à autre, par un brusque mouvement involontaire, il s'approchait d'une statue et la palpait d'une main convulsive, comme s'il cherchait à y découvrir un point faible pour la briser. Ou alors il se penchait curieusement sur une médaille, comme pour y lire un signe indéchiffrable. Mais ses yeux ne voyaient pas, leur regard était tourné en dedans, là où le pouvoir multiplié de la volonté suscitait les formes silencieuses qui devaient, dans le flux de la voix, atteindre la perfection de la musique verbale. Tout son être se contractait dans un effort pour élever au plus haut degré de l'intensité et la représentation du sentiment extraordinaire qui le possédait. Puisqu'il ne pouvait parler que de lui-même et de son propre univers, il voulait au moins réunir dans une idéale figure les qualités souveraines de son art et manifester par des images à l'esprit de ses disciples quelle invincible force de désir le lançait à travers la vie. Une fois de plus, il voulait leur montrer que, pour obtenir la victoire sur les hommes et sur les choses, rien ne vaut la persévérance à s'exalter soi-même et à magnifier son propre rêve de beauté ou de domination. Penché sur une médaille de Pisanello, il sentait dans ses hanches ardentes battre avec une rapidité incroyable le pouls de sa pensée. « Vois, Stelio !» vint lui dire Daniele Cloro avec ce pieux respect qui mettait un voile sur sa voix lorsqu'il parlait de la religion. « Vois comment t'opèrent sur toi les affinités mystérieuses de l'art !» Et comment un infaillible instinct, à l'heure où ta pensée est sur le point de se révéler, la conduit, entre tant de formes, vers l'exemplaire de la plus exacte expression, vers l'empreinte du plus haut style. C'est au moment où tu vas frapper ton idée et que l'attrait du vraisemblable t'incline sur une médaille de Pisanello et que tu te rencontres avec la longue marque de celui qui fut un des plus grands stylistes apparus dans le monde, l'âme la plus franchement hellénique de toute la Renaissance. Et voilà que ton front est soudain éclairé d'un signe de lumière. Le bronze pur portait l'effigie d'un jeune homme à la belle chevelure onduleuse, au profil impérial, au cou apollonien, type souverain d'élégance et de vigueur, si parfait que l'imagination ne pouvait se le figurer dans la vie qu'exempt de toute décadence, immuable tel que l'artiste l'avait enfermé dans le cercle de métal pour l'éternité. Dux equitum praestans, malatesta novellus que senae dominus, opus pisani pictoris. Et à côté, il y avait une autre médaille, œuvre du même créateur, où se voyait l'effigie d'une vierge à la poitrine mince, au cou de cygne, à la chevelure ramassée par derrière en forme de bourse pesante, le front haut et fuyant déjà, promis à l'auréole de la béatitude. Vase de pureté, scellé pour toujours, dur, précis et limpide comme le diamant, ciboire adamantin où était conservée une âme consacrée comme l'hostie au sacrifice. Cicilia Virgo, filia Ioannis Franciscus Primi Marcionis Mantuae. Vois, reprit le subtil exégète, vois comme Pisanello savait cueillir d'une main également prodigieuse la plus superbe fleur de la vie et la plus pure fleur de la mort. Dans le même bronze, il a coulé l'image du désir profane et l'image de l'aspiration sacrée, toutes les deux fixées dans la même idéalité du style. Ne reconnais-tu pas ici les analogies qui rattachent à cet art ton art propre ? Quand ta Perséphone détache de l'arbre infernal la grenade mûre, son beau geste de convoitise a aussi quelque chose de mystique. En fendant l'écorce pour manger les grains, elle déterminera inconsciemment sa destinée. L'ombre du mystère plane donc sur cette œuvre tout entière et sur cet acte sensuel. Nulle sensualité n'est plus ardente que la tienne, mais tes sens ont une telle acuité qu'en jouissant des apparences, ils pénètrent au plus profond des choses et qu'ils y rencontrent le mystère et qu'ils en frissonnent. Ta vision se prolonge par-delà le voile sur lequel la vie peint ses images voluptueuses où tu te complais. Ainsi, conciliant toi-même ce qui paraît inconciliable, fondant sans effort en toi-même les deux termes de l'antithèse, mais tu donnes aujourd'hui l'exemple d'une vie complète et extraordinairement puissante. Voilà ce que tu dois faire entendre à tes auditeurs, car c'est cela surtout qui l'importe à ta gloire, que l'on reconnaisse. Et il avait célébré l'idéal humain entre ce fier Malatesta, le chef des cavaliers, et Cécile de Gonzague, la bienheureuse Vierge Mantoine, avec la foi du bon prêtre officiant à l'autel. Et c'était pour cette foi que Stella l'aimait, et aussi parce qu'en nul autre il ne sentait plus profond et plus sincère la croyance à la réalité du monde poétique, et enfin parce qu'en celui-là il retrouvait souvent une sorte de conscience révélatrice et quelquefois une illumination imprévue de ses propres œuvres. « La Foscarina entre, accompagnée de Donatello al Valle », annonça Francesco d'Eliso, qui observait le passage de la foule montant par l'escalier d'ascenseur et se pressant dans la salle immense. Et alors, Stellio e Frenna fussent ressaisis par l'anxiété, et il entendait le murmure de la multitude se confondre pour son oreille avec le battement de ses artères comme dans un lointain infini, et revenir sur cette rumeur les dernières paroles de Perdita. Le murmure grandit, s'affaiblit, cessa, tandis que Stilio gravissait d'un pas ferme et léger les marches de l'estrade. En se retournant vers la foule, ses yeux éblouis entrevirent le formidable monstre aux mille visages humains parmi l'or et la pourpre sombre de la salle immense. Une subite poussée d'orgueil lui fit retrouver l'empire de lui-même. Il s'inclina vers la reine et vers Don Adriana Duduado, qui lui souriaient de leurs sourires jumeaux comme sur le grand canal dans la barque fuyante. Il jeta vers la scintillation des premiers rangs un regard aigu pour y reconnaître la Foscarina. Il parcourut jusqu'au fond toute l'assemblée, là où n'apparaissait qu'une zone obscure semée de vagues taches blanches pâles. Et alors, cette multitude devenue muette et attentive s'offrit à lui sous l'image d'une énorme chimère ocellée, au buste couvert de splendides écailles qui s'allongeaient, noirâtres, sous les volutes d'un ciel riche et lourd comme un trésor suspendu. Il était éblouissant, ce buste chimérique où brillait sans doute plus d'une parure qui jadis avait jeté ses feux sous le même ciel dans le banquet nocturne d'un couronnement. Le diadème et les colliers de la reine, les multiples colliers de perles réduites en grains de lumière qui faisaient penser à un miraculeux égrènement visible du sourire royal, les sombres émeraudes d'Andriana Duodo enlevés autrefois à la garde d'un cimetière, les rubis de Giuslilira Mermo assertis en forme d'œillet par l'inimitable travail de Vettore Camelio, les saphirs de Lucrezia Priuli, provenant des hautes socs sur lesquels la sérénissime Cilia s'était avancée vers le trône au jour de son triomphe, les bérils d'Orsetta Contarini, si délicatement mêlés à l'or mat par l'art de Silvestre Griffo, les turquoises de Zenobia Corner, baignées de pâleurs uniques par le mal mystérieux qui une nuit les avait changées sur le sein moite de la princesse de Lusignan, parmi les plaisirs d'Assolo, tous les joyaux insignes qui avaient illustré les fêtes séculaires de la ville à la Diomène s'embrasaient de feu nouveau sur ce buste chimérique d'où arrivait Astellio, le tiède effluve de la peau et de l'haleine féminine. Étrangement moucheté, le reste du corps difforme s'étendait en arrière comme une sorte de prolongement caudal et passait entre les deux gigantesques mappes-mondes qui rappelaient à la mémoire de l'hymne magnifique les deux sphères de bronze que le monstre aux yeux bandés presse de ses pattes léonines dans l'allégorie del Giambellino. Et cette ample vie animale, privée de pensée en face de celui qui seul devait penser maintenant, douée de cette fascination inerte que possèdent les énigmatiques idoles, couverte de son propre silence comme d'un bouclier capable de recueillir et de repousser toute vibration, attendait le premier frémissement de la parole dominatrice. Stellio mesura ce silence, où sa première syllabe aurait pu trembler. Pendant que la voix montait à ses lèvres, conduite par la volonté, raffermie par elle contre le trouble instinctif, il aperçut la Foscarina debout près de la rampe qui entourait le globe céleste. Le visage très pâle de la tragédienne sur le cou privé de joyaux et sur la pureté des épaules nues se dressait dans l'orbe des figures zodiacales. Stellio admira l'art de cette apparition. Les yeux attachés sur ses yeux adorateurs, il se mit à parler lentement, comme s'il avait encore dans l'oreille le rythme de la rame. Je pensais récemment, une après-midi, en revenant des jardins par ce tiède rivage des esclavons, où l'âme des poètes errants voit je ne sais quel magique moins d'or s'allonger sur une mer de lumière et de silence vers un rêve infini de beauté, je pensais, ou plutôt par la pensée, j'assistais comme à un spectacle intime, à l'alliance nuptiale de Venise et de l'automne sous les cieux. Il y avait partout et part un esprit de vie, fait d'attentes passionnées et d'ardeurs contenues, qui m'émerveillait par sa véhémence, mais qui cependant ne me paraissait pas nouveau. Je l'avais déjà trouvé, recueilli en certaines zones d'ombre, sous l'immobilité presque mortelle de l'été. Et, à certains moments, je l'avais senti aussi dans l'étrange odeur fébrile de l'eau, vibrer comme un pouls mystérieux. Ainsi, pensais-je, il est donc vrai que cette pure cité d'art aspire à un suprême état de beauté qui pour elle a un retour annuel, comme pour la forêt l'éclosion des fleurs. Elle tend à se révéler elle-même dans une pleine harmonie, comme si toujours elle portait en soi, puissante et consciente, cette même volonté de perfection d'où elle est née et s'est formée au cours des siècles telle une créature divine. Sous l'immobile embrasement de l'été, elle semblait ne plus palpiter, ne plus respirer, morte dans ses vertes eaux. Mais mon intuition ne m'a pas trompé quand je devinais qu'elle était travaillée en secret par un esprit de vie suffisant pour renouveler le plus sublime des antiques prodiges. Voilà ce que je pensais, ce que je voyais. Mais par quelle vertu pourrais-je communiquer à ceux qui m'écoutent ce spectacle de beauté et de joie? Nulle aurore et nul couchant ne valent une pareille heure de lumière sur les marbres et sur les eaux. Et l'apparition imprévue de la femme aimée dans la forêt d'avril n'est pas aussi enivrante que cette soudaine révélation diurne de la ville héroïque et voluptueuse qui porta et qui étouffa dans ses bras de pierre le plus riche songe de l'âme latine. La voix de l'orateur, claire et pénétrante et comme glacée au début, s'était allumée subitement aux étincelles invisibles que devait susciter en lui l'effort de l'improvisation, réglé avec une vigilance aiguë par l'oreille difficile. Tandis que les paroles coulaient sans obstacle et que la ligne rythmique de la période se fermait à la manière d'une figure dessinée d'un seul trait par une main hardie, les auditeurs, sous cette fluidité, sentaient l'excessive tension qui tourmentait l'esprit du jeune homme, et cela les captivait comme un de ces effrayants jeux du cirque où toutes les énergies herculéennes d'un athlète se manifestent par les cordes et les tendons qui vibrent et par les trames des artères qui se gonflent. Il sentait tout ce qu'il y avait de vivant, de chaud et d'immédiat dans la pensée exprimée ainsi. Et leur jouissance était d'autant plus forte qu'elle était plus imprévue. Car ce que Chatin attendait de cet infatigable chercheur de perfection, c'était la lecture étudiée d'un discours composé laborieusement. Mais ses défauts assistaient avec émotion à cette épreuve audacieuse, comme s'ils avaient eu devant eux dévoilé le secret labeur d'où étaient sorties les formes qui les avaient si profondément charmés. Et cette émotion initiale, répandue par une sorte de contagion, indéfiniment multipliée dans le grand nombre et devenue unanime, se répercutait en celui qui l'avait fait naître. Il sembla qu'il y succombait. C'était le péril prévu. Sous le choc d'une onde trop forte, l'orateur chancela. Pendant quelques secondes, une épaisse obscurité envahit son cerveau. La lumière de ses idées s'éteignit comme une torche au souffle d'un vent irrésistible. Ses yeux se voilèrent comme au début du vertige. Mais il comprit quelle serait la honte de la défaite s'il cédait à cet égarement. Et par une espèce de heurt brutale, sa volonté fit jaillir dans cette obscurité comme le briquet du silex une autre étincelle. Du regard et du geste, il éleva l'âme de la foule vers le chef-d'œuvre qui, dans le ciel de la salle, répandait une irradiation solaire. « Je suis certain, s'écria-t-il, je suis certain que telle apparut Venise aux Véronèses lorsqu'il cherchait en lui-même l'image de la reine triomphale. » Et il dit pourquoi l'artiste prodigue, après avoir jeté sur sa toile à profusion l'or, les gemmes, la soie, la pourpre, l'hermine, toutes les opulences, ne put représenter le visage glorieux autrement que dans un nimbe d'ombre. C'est pour cette ombre qu'il faut exalter le Véronèse. Représentant sous une figure humaine la cité dominatrice, il sut en exprimer l'esprit essentiel dont le symbole serait une flamme inextinguible à travers un voile d'eau. Et tel que je connais bien, ayant plongé son âme dans cet homme sublime, l'en a retiré enrichi d'une puissance nouvelle et par la suite a forgé avec des mains plus ardentes son art et sa vie. Cet homme-là n'était-ce pas lui-même? Dans cette affirmation de sa personne propre, il retrouva toute son assurance et sentit que désormais il était le maître de sa pensée et de sa parole, hors de danger, capable d'entraîner dans les cercles de son rêve l'énorme chimère scellée au buste couvert d'écailles splendides, le monstre éphémère et versatile au flanc duquel émergeait filialement la muse tragique, la tête dressée dans l'orbe des constellations. Obéissant à son geste, les visages innombrables se levèrent vers l'apothéose. Les yeux dessillés contemplèrent avec stupeur ce prodige, comme s'ils le voyaient pour la première fois, et comme s'ils le voyaient sous un aspect tout nouveau pour eux. Le dos nu de la femme au casque d'or resplendissait sur le nuage, avec un relief de vie musculaire si puissant qu'il tentait comme une chair palpable. Et de cette nudité plus vivace que tout le reste, victorieuse du temps, qui au-dessous d'elle avait obscurci les héroïques images des sièges et des batailles, il semblait qu'émanât un enchantement voluptueux dont les souffles de la nuit automnale, respirant par les balcons ouverts, augmentaient la douceur. Tandis que là-haut, les princesses de cette autre cour, penchées sur la balustrade entre les deux colonnes torses, inclinaient leurs visages allumés et leurs seins opulents vers leur dernière sœur mondaine. Alors, dans cet enchantement, le poète jeta ces périodes ailées comme des strophes lyriques. Il montra la ville enflammée de désir et palpitante d'anxiété en ses mille ceintures vertes, étendant ses bras de marbre vers la sauvage automne dont l'humide haleine lui arrivait embaumée par la mort délicieuse des campagnes et des îles. Il la fit trembler comme l'amante qui espère son heure de joie. Il évoqua les choses éloquentes comme si quelque signe invisible eût été attaché à leur apparence visible et que par un divin privilège elles eussent vécu dans la supérieure vérité de l'art. Il exalta enfin cette sorte de rythmique intelligence qui en élabore studieusement les aspects comme pour les rendre conformes à une idée et les faire concourir à une fin préconçue. Et Venise, alors, parut avoir des mains merveilleuses pour composer ses lumières et ses ombres, pour tisser elle-même l'inimitable tissu d'allégorie qui la recouvre. Et puisque dans l'univers, la poésie seule est vérité, celui qui sait la contempler et l'attirer à soi par les vertus de la pensée, celui-là est bien prêt de connaître le secret de la victoire sur la vie. En prononçant ces paroles, il avait cherché les yeux de Daniele Giorgio et les avait vus briller de bonheur sous cet énorme front méditatif qui paraissait gros d'un monde non enfanté. Le docteur mystique était là, près de l'estrade, avec plusieurs de ses disciples inconnus qu'il avait décrits au maître, avides et anxieux, pleins de foi et d'attente, impatients de briser la chaîne de leur servitude quotidienne et de connaître une libre ivresse de joie et de douleur. Stelio les voyait réunis en groupe comme un noyau de force massée, le dos aux grandes armoires rougeâtres où gisaient ensevelis les innombrables volumes d'une sagesse oubliée et inerte. Il distinguait leurs visages ardents et attentifs, leurs longues chevelures, leurs bouches entrouvertes avec une stupeur enfantine ou fermées avec une espèce de violence sensitive, leurs yeux clairs ou bruns sur lesquels le souffle des paroles faisait passer tour à tour des lumières et des ombres comme la brise changeante sur un parterre de fleurs délicates. Et il avait la certitude de tenir dans sa main leurs âmes confondues en une seule, et de pouvoir agiter cette âme unique, ou l'étreindre dans son poing, ou la déchirer, ou la brûler, comme un léger drapeau. Tandis que son esprit se bandait et se débandait avec vigueur pour ce continuel décochement, il ne laissait pas de conserver une étrange lucidité d'investigation extérieure, une faculté d'observation matérielle qui devenait plus aiguë et plus nette à mesure que son éloquence s'accélérait et s'enflammait davantage. Il sentait peu à peu son effort devenir plus facile, et que le pouvoir de sa volonté était devancé par une énergie libre et obscure comme un instinct, surgit des profondeurs de son inconscience et opérant par un procédé occulte, invérifiable. Par analogie, il se rappelait certains moments extraordinaires où, dans le silence d'éveil, il avait écrit un vers éternel qui lui avait paru, non pas sorti de son cerveau, mais dicté par un dieu violent auquel sa main avait obéi comme un instrument aveugle. C'était à peu près le même étonnement qu'il éprouvait à cette heure, quand son oreille était surprise par la cadence imprévue des mots que proféraient ses lèvres. Dans la communion qui s'était établie entre son âme et l'âme de cette foule, il survenait un prodige presque divin. Au sentiment qu'il avait de sa personne habituelle, s'ajoutait quelque chose de plus grand et de plus fort, et il lui semblait que de minute en minute, sa voix acquérait une plus haute vertu. C'est alors qu'il aperçut en lui-même complète et vivante la figure idéale. Et il l'exprima selon la manière des deux maîtres coloristes qui régnaient en ce lieu, avec le luxe du Véronèse et la fougue du Tintoret, dans le langage de la poésie.